Chapitre 3. Négociation.
On se met en route demain matin.
Torg ne chercha pas à cacher le plaisir qu'il prenait à annoncer la nouvelle. Yémin ne leva pas les yeux de son ouvrage. L'homme ne lui avait pas posé de questions ni donné un ordre. Il n'était donc pas tenu de répondre.
Ouais, on s'en va d'ici. Tu reverras pas Terrilville avant un moment. On a 7 ports à faire d'ici à Jamelia. Les 3 premiers sont en Calcède et on va s'y débarrasser de ces noix de Comfer. Je savais qu'elles se vendraient pas à Terrilville, mais on m'a rien demandé.
Torg fit rouler ses épaules avec un sourire satisfait. Apparemment, le mauvais calcul de Kyle prouvait à ses yeux qu'il était plus avisé que son capitaine. Yémin, pour sa part, ne voyait pas le rapport.
Le capitaine va se garnir une petite caisse en cours de route, à ce qu'il paraît. Comme ça, il aura davantage à dépenser pour les esclaves de Jamelia. On va en embarquer une bonne cargaison, mon gars.
Il s'humecta les lèvres.
Je suis impatient d'y être. Surtout qu'il sera obligé d'écouter mes conseils, parce que c'est un marché que je connais bien. Ouais, moi, j'ai l'œil pour la bonne chair à esclaves, et je prendrai que le premier choix. Peut-être même que j'achèterai quelques gamines maigrichonnes pour te faire un peu rêver. Qu'est-ce que t'en dis, mon gars?
Il valait mieux répondre aux questions si on ne voulait pas recevoir un coup de pied bien placé. J'en dis que l'esclavage est immoral et illégal, et que nous n'avons pas à discuter les projets du capitaine. Yéma n'avait pas quitté son travail des yeux. On lui avait donné un tas de vieilles élingues à démêler pour en récupérer ce qui était encore utilisable et réduire le reste en fibres dont on pourrait refaire des cordages ou qu'on emploierait comme étoupe le cas échéant. Ses mains étaient devenues aussi rêches que le chanvre qu'elle manipulait. Quand il les regardait, il avait du mal à s'imaginer qu'elles aient pu appartenir à un artiste du vitrail. En face de lui, sur le gaillard d'avant, Clément travaillait de son côté sur le tas de cordes. Yéma enviait au jeune matelot la dextérité de ses mains calleuses. Quand Clément prenait un bout d'élingue et la secouait, elle se démêlait comme par magie. Yéma, lui, avait beau s'escrimer à enrouler un cordage dans un sens, la ligne voulait toujours se tordre dans le sens inverse.
« Oh, on fait son fier !» Torg lui donna un coup du bout de la botte, peu violent mais douloureux.
Yéma était encore meurtri d'un coup précédent.
« Non, lieutenant, »
répondit Yéma par réflexe.
Il était plus simple parfois de courber les chines. Quand son père l'avait confié à cette brute, le jeune garçon avait essayé de lui parler comme à une personne douée de raison, mais il avait promptement appris que Torg interprétait comme une moquerie tous les mots qu'il ne comprenait pas et considérait toute tentative d'explication comme une mauvaise excuse. Moins Yéma en disait, moins il recevait de coups, même s'il devait pour cela approuver des affirmations contre lesquelles il se serait normalement élevé. Il s'efforçait de ne pas regarder sa propre attitude comme une dégradation de sa dignité et de sa morale, mais comme un moyen de survie. Il devait survivre jusqu'au moment où il pourrait s'échapper. Il risqua une question.
« Dans quel port allons-nous faire relâche ?»«
S'il y en avait un sur la péninsule de Moal, il débarquerait par tous les moyens.
Qu'il dût traverser à pied la presqu'île sur toute sa longueur, qu'il dût mendier pour se remplir l'estomac, peu importait. Il retournerait à son monastère. Là, il raconterait son histoire et on l'écouterait. On changerait son nom et on lui trouverait une place ailleurs où son père ne le retrouverait jamais.
« Nulle part du côté de Moal !»
répondit Torg avec une joie méchante.
« Si tu veux retrouver ta prêtraille, petit, il va falloir que tu nages !»
Et le lieutenant éclata de rire. Yéma comprit alors qu'il l'avait amené à dessein à poser cette question, et il resta déconcerté que même le lent intellect de l'homme parvint à percer son désir secret. En rêvait-il trop? Cela se voyait-il dans ses gestes? Pourtant, il avait fini par se persuader que se raccrocher à cet espoir était le seul moyen de garder sa raison. Il passait son temps à imaginer comment quitter le navire. Chaque fois qu'on l'enfermait dans la soute à chaîne pour la nuit, il attendait que l'homme qui l'avait accompagné se fût éloigné, puis il essayait la poignée. Il regrettait de s'être montré si impatient quand on l'avait conduit de force sur la vive nef.
Ces tentatives maladroites de fuite avaient averti le capitaine et l'équipage de ses intentions. Et Kyle avait prévenu ses hommes que celui qui le laisserait s'échapper le paierait cher. Il ne restait jamais seul, et ceux qui travaillaient à ses côtés lui en voulaient non seulement de ne pouvoir lui faire confiance, mais encore d'être obligés de le surveiller sans pour cela être relevés de leur corvée.
Torg s'étira en faisant rouler ses muscles ostensiblement. Du bout de la botte, il tapota le dos de Yema.
« Faut que j'y aille, Moussaillon. J'ai du boulot. Clément, c'est toi qui fais la nounou. Veille à ce que le bébé à sa maman ait toujours les mains occupées. »
Il donna un dernier coup de pied à Yema et quitta le pont de son pas lourd. Les deux garçons ne levèrent pas les yeux de leur travail. Mais, une fois que le lieutenant fut assez loin pour ne plus les entendre, Clément déclara calmement
« Un de ces jours, quelqu'un va l'assassiner et le jeter discrètement par-dessus bord. »
Il ne s'arrêta pas un instant de travailler.
« Ce sera peut-être moi, »
ajouta-t-il sur le ton de la plaisanterie. Cette tranquille apologie du meurtre glaça les sangs de Yema. Il n'aimait pas Torg et devait même se faire violence pour ne pas le détester, mais il n'avait jamais envisagé de le tuer. Il était abasourdi que Clément y eût songé, lui. « Ne laisse pas un homme comme Torg te dévier de ta vie et de ta ligne de conduite, » répondit-il à mi-voix. « Le seul fait de penser à tuer par vengeance fausse l'esprit. Nous ignorons pourquoi ça permet à de tels individus d'exercer leur autorité sur les autres, mais nous pouvons les empêcher de déformer notre âme. Obéissons-leur quand nous y sommes obligés, mais ne...
« Je ne t'ai pas demandé de sermon !»
fit Clément d'un ton agacé. D'un geste furieux, il jeta sur le pont le bout des lingues sur lequel il travaillait.
« Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire comment je dois penser, comment je dois vivre? Il ne t'arrive jamais de parler comme tout le monde, de bavarder? Tu devrais essayer. Dis tout haut, j'aimerais tuer cette saleté d'enfourcheur de chien. Tu verras le bien que ça fait. »
Clément se détourna de Yéma et poursuivit comme s'il s'adressait au mât qui se dressait près de lui.
« Fiante! J'essaie de lui parler comme s'il était humain et lui, il me répond comme si je mendiais ses conseils à genoux. »
À ces mots, l'indignation envahit Yéma, aussitôt remplacée par un sentiment de gêne.
« Ce n'est pas ce que je voulais. »
Il s'apprêtait à répondre qu'il ne se jugeait pas supérieur à Clément, mais le mensonge mourut sur ses lèvres et il se contraignit à dire la vérité.
« Non, je ne parle jamais sans réfléchir. On m'a appris à ne pas m'exprimer à la légère. Or, au monastère, quand nous voyons quelqu'un emprunter un chemin destructeur, nous en discutons entre nous. Mais pour nous aider mutuellement, pas pour...
« Eh bien, tu n'y es plus au monastère. Tu es sur un navire. Quand est-ce que tu vas te mettre ça dans la tête et commencer à te conduire en marin ?»«
Tu sais, c'est pénible de te regarder laisser tout le monde te marcher sur les pieds. » Un peu de bon sens. Résiste au lieu de prêcher sans arrêt l'amour de ça. Flanque un bon coup de poing à Torg. Tu te feras punir, c'est sûr, mais Torg est encore plus trouillard que toi. S'il croit qu'il y a le moindre risque que tu lui tombes dessus avec un épissoir, il se tiendra à carreau. C'est pourtant évident.
Yema répondit avec dignité. S'il m'oblige à me conduire comme lui, c'est qu'il a gagné. C'est pourtant évident.
« Non, ce qui est évident pour moi, c'est que t'as tellement peur de te faire rosser que tu refuses d'avouer que tu as peur.
C'est comme l'histoire de ta chemise l'autre jour, quand Torg l'a accrochée en haut du mât pour te faire enrager. Tu aurais dû savoir que tu serais obligé d'aller la chercher toi-même, et tu aurais donc dû y aller tout de suite au lieu d'attendre de ne plus pouvoir faire autrement. Pour Torg, tu as perdu la face deux fois. Tu ne t'en rends pas compte ?»«
Je ne vois pas en quoi j'ai perdu la face. »
C'était une plaisanterie cruelle, indigne d'homme responsable, répondit Yema à mi-voix.
Clément perdit son calme. Ah, voilà, voilà ce que je ne supporte pas chez toi. Tu sais parfaitement ce que je veux dire, mais tu déformes tout. Le problème n'est pas de savoir ce qui est digne d'homme responsable ou non. Le problème, il est entre Torg et toi, ici, en ce moment. La seule façon de gagner la partie aurait été de faire semblant que tu t'en fichais, que ça t'était égal de grimper au mât pour récupérer ta chemise. Mais non, il a fallu que tu restes sur le pont à prendre des coups de soleil et à jouer les prêtres trop pieux pour s'abaisser à décrocher une chemise.
Clément finit par se taire, manifestement frustré par l'absence de réaction de Yema.
Il reprit son souffle et fit une nouvelle tentative.
« Tu ne comprends donc pas ? Il t'a obligé à grimper au mât devant lui, c'est ça le pire. C'est là que tu as perdu. Maintenant, tout l'équipage croit que tu n'as pas de tripes, que tu es un trouillard. »
Clément secoua la tête, écœuré.
« Tu as déjà l'air d'avoir 10 ans. Il faut vraiment que tu te conduises en plus comme si tu les avais. »
Il se leva et s'en alla à grandes enjambées, furieux.
Yema resta accroupie, les yeux fixés sur le tas de cordage. Les paroles de son compagnon l'avaient ébranlé davantage qu'il ne voulait l'admettre.
Clément ne l'avait que trop bien mis en face de la réalité.
Il vivait désormais dans un monde différent.
Clément et lui étaient sans doute du même âge, mais le jeune matelot était entré dans le métier par goût 3 ans plus tôt. C'était aujourd'hui un marin aguerri, et Yema l'avait remplacé comme mousse à bord. Et il n'avait plus du tout l'apparence d'un enfant. Agile et musclé, il avait une bonne tête de plus que Yema, et le duvet de ses joues s'assombrissait, annonçant une barbe d'homme.
Yema, lui, n'était pas responsable de sa carrure frêle et de son aspect enfantin, il le savait. Et même s'il y voyait un défaut, il n'y pourrait rien changer.
Cependant, sa jeunesse apparente avait posé moins de problèmes au monastère, où il était entendu que chacun grandissait à son heure et à sa façon.
Sa grèbe, par exemple, conserverait toujours la taille d'un enfant de 10 ans, et ses membres courtois auraient fait de lui la cible de toutes les plaisanteries s'il était resté dans son village natal. Alors qu'au monastère, son don pour la poésie lui valait le respect général. Nul ne le considérait comme trop petit. C'était sa grèbe, tout simplement. Et personne n'aurait jugé normaux ni tolérables les tours cruels qui faisaient l'ordinaire du navire. Certes, à leur arrivée, les novices se taquinaient et se bousculaient entre eux, mais on renvoyait promptement chez leurs parents ceux qui affichaient un penchant pour la brutalité ou la méchanceté. Ces caractères n'avaient pas leur place chez les serviteurs de ça.
Le monastère lui manqua soudain douloureusement. Et il refoula son chagrin avant que des larmes viennent lui piquer les yeux. Pas question de pleurer à bord du navire. L'équipage n'y verrait qu'une faiblesse de plus.
Dans un sens, Clément avait raison. Il était coincé sur la Vivacia jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper ou qu'il atteigne ses 15 ans.
Que conseillerait Bérandol? Eh bien, de tirer le plus de profit possible de son expérience.
S'il devait jouer les marins, le plus sage était d'apprendre le métier rapidement.
Et s'il était obligé de faire partie de l'équipage pendant le temps que cela durerait, il devait au moins former des alliances.
Si seulement il avait la moindre idée de la façon dont on se lie d'amitié avec quelqu'un de son âge, mais avec qui on n'a presque rien en commun.
Il ramassa un bout d'élingue usé et se mit à démêler les taurons tout en réfléchissant.
Derrière lui, Vivacia dit à mi-voix, « J'ai trouvé que tes propos étaient justes.
« Merveilleux ! Un bateau en bois sans âme, animé par une force dont nul ne savait si elle procédait de ça ou non, s'enthousiasmait pour ses idées. » À peine cette pensée indigne lui fut-elle venue que Yema l'étouffa, mais trop tard. Il sentit le navire vibrer d'affliction. Ne venait-il pas justement de songer qu'il avait besoin d'alliés ? Et voilà qu'il s'en prenait méchamment au seul qu'il possédait pour l'instant.
« Je regrette !» murmura-t-il, sachant qu'il n'était pas nécessaire en réalité de formuler tout haut ses pensées. « C'est dans notre nature d'humain de chercher à faire partager nos douleurs aux autres, comme si nous pouvions nous en débarrasser en infligeant une souffrance égale à nos semblables. »
« J'ai déjà assisté à ce phénomène, » répondit Vivacia d'un ton indifférent. « Tu n'es pas seul dans ta rancœur. L'équipage tout entier est en ébullition. Presque personne à bord n'est satisfait de son sort. »
Yema acquiesça. Il y a eu trop de changements qui se sont produits trop vite ces derniers temps. Trop d'hommes congédiés, d'autres qui ont vu leur salaire réduit à cause de leur âge, trop de nouvelles recrues qui essaient de découvrir leur place dans l'ordre des choses. Il faudra du temps avant que tous ces hommes se sentent faire partie du même équipage.
Si cela arrive jamais,
fit Vivacia d'un ton où ne perçait guère d'espoir. D'un côté, il y a l'ancien équipage des Frontvestrit, et de l'autre, celui de Kyle, plus les nouvelles recrues. C'est du moins ainsi qu'ils se voient les uns les autres, et ils se conduisent en conséquence. Je me sens divisé. J'ai du mal à faire confiance, à me laisser aller et à laisser la direction au capitaine. Elle hésita sur le titre, comme si elle ne reconnaissait pas complètement la position de Kyle.
Yema hocha la tête encore une fois.
Ces tensions dont elle parlait, il les avait lui-même perçues. Certains des hommes que Kyle avait laissés à quai avaient tenu des propos venimeux sur le nouveau commandant, et deux autres anciens de la Vivacia avaient démissionné en signe de protestation. Le plus récent indice de ce malaise datait du jour où Kyle avait exigé qu'un des doyens des marins démissionnaires lui restitue la boucle d'oreille que le capitaine Vinstrit lui avait donnée en remerciement de son long service à bord de la Vivacia. Le bijou représentait la figure de proue du navire et désignait l'homme comme un membre estimé de l'équipage. Le vieux marin avait préféré le jeter à l'eau plutôt que le remettre à Kyle.
Là-dessus, il s'était éloigné sur le quai d'un pas digne, son sac de mer sur sa maigre épaule. Yema se doutait bien qu'il n'avait guère d'avenir. Il aurait du mal à faire ses preuves à bord d'un nouveau bâtiment, en face de matelots plus jeunes et plus agiles que lui.
« Il n'a pas jeté la boucle d'oreille à la mer. » La voix de Vivacia n'était guère qu'un murmure.
La curiosité de Yema s'éveilla aussitôt.
« Vraiment? Comment le sais-tu ?»
Il se leva et s'approcha du bastingage pour regarder la figure de proue.
Elle leva les yeux vers lui et sourit. Il est revenu plus tard, ce même soir, et il me l'a donné. Nous avions vécu si longtemps ensemble, m'a-t-il dit, que s'il ne pouvait mourir sur mes ponts, il tenait au moins à me laisser un souvenir de son temps avec moi.
Yema se sentit soudain profondément ému.
Le vieux marin avait remis au navire un objet qui avait sûrement de la valeur, ne fût-ce que par son poids en or. Il le lui avait donné de son plein gré.
« Qu'en as-tu fait ?»
Elle eut l'air un peu gênée. « J'ignorais qu'en faire, mais il m'a demandé de l'avaler. »
Beaucoup de Vivenais font cette coutume, d'après lui.
Pas pour n'importe quoi, mais pour des objets chargés de symboles. Elles les avalent et deviennent ainsi dépositaires pour le restant de leur existence, de la mémoire de ceux qui les leur ont donnés.
Elle sourit devant la mine stupéfaite de Yema.
« J'ai donc obéi ? Ça n'a pas été difficile, bien que ça m'ait fait une impression étrange. Et je suis consciente de la présence de cette boucle en moi d'une façon que je ne saurais décrire. Mais je devais faire ce geste. Je le sentais. »
Je le crois aussi, répondit Yema en se demandant d'où lui venait une telle certitude. La brise nocturne était bienvenue après la chaleur du jour. Même les bateaux ordinaires paraissaient murmurer entre eux le long des quais, au rythme de leur léger craquement.
Le ciel dégagé annonçait une belle journée pour le lendemain.
Althea se tenait immobile et silencieuse dans l'ombre de Vivacia. Fallait-elle qu'elle soit folle pour se fixer un but impossible et se fonder en plus sur les paroles d'un homme en fureur pour l'atteindre? Mais que lui restait-il d'autre? Elle n'avait que la promesse de Kyle, faite sur un coup de tête, et le sens de l'équité de son neveu. Seule une idiote pourrait croire que cela suffirait à lui rendre un avenir. Sa mère avait essayé de la retrouver par le biais de Vivacia. Peut-être cela signifiait-il qu'Althea avait une alliée chez elle. Peut-être. Mais elle n'y comptait pas.
Elle appliqua la main sur la coque argentée de Vivacia. « Ça, par pitié, » fit-elle, puis les mots lui manquèrent.
Elle n'avait jamais beaucoup prié. Il n'était pas dans sa nature de dépendre des autres pour obtenir ce qu'elle désirait. La grande mère de tout et de tous entendrait-elle seulement la supplique de quelqu'un qui ne lui prêtait d'ordinaire nulle attention?
Par la paume de sa main, elle sentit soudain une douce chaleur émaner de Vivacia, et elle se demanda si c'était bien à ça qu'elle avait adressé sa prière. Comme la plupart des marins qu'elle connaissait, peut-être croyait-elle davantage dans son navire que dans la providence divine.
« Il arrive !»
la prévint Vivacia dans un murmure. Althea recula dans l'ombre de son navire.
Être obligée de se dissimuler ainsi. Ses rendez-vous furtifs, clandestins, avec Vivacia lui faisaient horreur, mais c'était son seul espoir de réussite.
Si Kyle avait vent de ses projets, il ferait sûrement tout ce qui serait en son pouvoir pour les contrecarrer. Et pourtant, elle était là, prête à tout dire à Yema, et cela en se fondant sur un unique regard échangé avec lui, parce que l'espace d'un instant, elle avait reconnu dans ses yeux le sens de l'honneur d'Efron Vestrit. Elle allait maintenant tout jouer sur la confiance qu'elle lui prêtait.
« N'oublie pas que je t'ai à l'œil, morveux !»
La voix hargneuse de Torg éclata dans la nuit sereine comme un coup de tonnerre. Seul le silence accueillit sa déclaration.
« Réponds-moi, morveux !»
aboya l'homme.
« Vous ne m'avez pas posé de questions ?»
fit Yema d'un ton calme. En contrebas sur le quai, Althea félicita l'enfant pour son courage, sinon pour sa sagesse.
« Si jamais tu essaies de quitter le bord cette nuit, je te botte le cul jusqu'à ce que t'aies de la purée à la place des vertèbres !» reprit Torg. « Tu m'as compris ?»«
J'ai compris !»
répondit la voix flûtée de Yema avec lassitude.
On eût cru un tout jeune enfant fatigué.
Althea entendit le frottement de pieds nus sur le pont, puis le bruit sourd de quelqu'un qui s'assoit lourdement.
« Je suis trop épuisé pour réfléchir et plus encore pour discuter, » ajouta l'adolescent.
« Et pour écouter ?» demanda le navire avec douceur.
Althea aperçut un bâillement indistinct. « Si ça ne te dérange pas que je risque de m'endormir au milieu de ce que tu veux me dire ?»«
Ce n'est pas moi qui souhaite te parler, » murmura Vivacia. « Althea Vestrit se trouve sur le quai, en dessous de toi. C'est elle qui a quelque chose à te dire. »«
Ma tante Althea ?»
fit Yema avec surprise, et la jeune fille vit sa tête apparaître au-dessus du bastingage qui la surplombait. Elle sortit sans bruit de l'ombre, pour le regarder. Mais son visage restait invisible. Elle ne vit qu'une silhouette obscure sur le fond du ciel nocturne.
« On prétend partout que vous avez disparu ?»
remarqua-t-il à mi-voix.
« C'est exact. »
Prenant une longue inspiration, elle se jeta à l'eau.
« Yema, si je t'expose franchement mon plan, sauras-tu le garder pour toi ?»
En bon prêtre, il répondit par une question.
« Projetez-vous quelque chose de... mal ?»
Le ton qu'il avait employé faillit la faire éclater de rire.
« Non, je n'ai pas l'intention d'assassiner ton père ni de prendre de risques aussi inconsidérés. »
Elle hésita, mesurant le peu qu'elle savait de cet enfant. Vivacia l'avait assuré qu'il était digne de confiance, et Althea espérait qu'elle ne s'était pas trompée.
« Je vais essayer de le prendre à son propre jeu, mais ça ne marchera pas s'il est au courant de ce que je mijote. » « Je devrais donc te demander de conserver le secret. »« Mais pourquoi ne pas le garder pour vous ? Un secret est mieux protégé si une seule personne le connaît. »
C'était là, naturellement, le nœud de l'affaire. Althea s'arma de courage.
« Parce que tu es essentiel à mon plan. Sans ta promesse de m'assister, je suis pieds et poings liés. »
Le jeune garçon se tut un moment.
« Ce que vous avez vu le jour où il m'a frappé, vous a peut-être donné à croire que je le déteste ou que je souhaite sa ruine, mais il n'en est rien. Je désire seulement qu'il tienne sa promesse. C'est exactement ce que je veux, moi aussi, répondit vivement Althea. Je ne te demande pas de faire quelque chose de mal, Yema, je te le jure. Mais avant d'en dire davantage, il me faut ta promesse de garder le secret.
L'adolescent réfléchit pendant ce qui parut une éternité à la jeune fille. Tous les prêtres faisaient-ils toujours preuve d'autant de circonspection en toutes circonstances ?
« Je garderai votre secret, » déclara-t-il enfin.
Cette réponse plut à Althea. Pas de grand serment, mais une parole librement offerte. Sous sa main, elle sentit la Vivacia se réjouir de son jugement. « Curieux pour un navire, » dit attaché de l'importance.
« Merci, »
murmura-t-elle. Puis elle prit son courage à deux mains en espérant que Yema n'allait pas la croire folle.
« Te souviens-tu clairement du jour où il t'a donné un coup de poing dans la salle à manger ?
Pour la plus grande partie, oui, répondit le jeune garçon, du moins lorsque j'étais conscient.
Te rappelles-tu ce qu'a dit ton père? Il a juré sur ça, que si un capitaine de bonne réputation se portait garant de mes qualités de marin, il me rendrait mon bateau. Te le rappelles-tu? Et elle retint son souffle.
Oui, fit Emma à mi-voix.
Althea posa les deux mains sur la coque du navire. Et serais-tu prêt à jurer sur ça que tu l'as entendu prononcer ces mots?
Non. Les fragiles fondations du rêve d'Althea s'effondrèrent.
Elle aurait dû s'en douter. Comment avait-elle pu croire que Yémin se dresserait contre son père dans une affaire de cette importance? Comment avait-elle pu être stupide à ce point?
Je serais prêt à témoigner que je l'ai entendu les prononcer, poursuivit l'adolescent, mais pas à jurer. Un prêtre de ça ne jure pas sur ça.
Le cœur d'Althea se gonfla de soulagement. Cela suffirait. Il fallait que cela suffise. Tu serais prêt à donner ta parole d'homme, qu'il les a prononcées? Insista-t-elle.
Naturellement, c'est la vérité, rien de plus. Mais, fit-il en secouant la tête, je ne pense pas que ça vous mène très loin.
Si mon père refuse de tenir la promesse qu'il a faite à ça de me rendre à la prêtrise, pourquoi obéirait-il à un serment fait sous le coup de la colère?
Après tout, le navire a beaucoup plus de valeur que moi à ses yeux.
Je regrette de vous parler ainsi, Althea, mais à mon sens, votre espoir de récupérer votre navire par ce moyen est infondé.
Laisse-moi m'en occuper seul,
répondit-elle d'une voix tremblante. Le soulagement l'avait envahie. Elle avait un témoin et elle pouvait compter sur lui. Elle ne parlerait pas à son neveu du conseil des marchands et du pouvoir qu'il détenait. Elle lui avait déjà confié assez de son plan, elle ne tenait pas à alourdir son fardeau.
Du moment que tu es prêt à attester que ton père a bien prononcé ses paroles, je garde espoir.
Yéma ne réagit pas à cette déclaration, et pendant un moment, Althea resta immobile, les mains plaquées sur la coque du navire silencieux. Elle avait presque la sensation de percevoir le jeune garçon à travers le bateau, de capter son affliction et sa solitude.
Nous partons demain, dit-il enfin d'un ton sans joie.
Je t'envie, répondit Althea.
Je sais. J'échangerai volontiers ma place contre la vôtre.
J'aimerais que ce soit aussi simple. Althea s'efforça de faire taire sa jalousie.
Yéma, aie confiance en Vivacia.
Elle te protégera et tu la protégeras.
Je compte sur vous deux pour garder l'œil l'un sur l'autre.
Elle s'entendit avec horreur prendre ce qu'elle appelait le ton de « vieille radoteuse » et qu'elle détestait quand elle était plus jeune. Maîtrisant mieux sa voix, elle s'adressa à Yéma comme à un jeune garçon en partance pour son premier voyage.
« Je pense que tu finiras par adorer cette existence et ce navire. C'est dans ton sang.
Et si ça se produit, » ces mots-là avaient plus de mal à sortir,
« si ça se produit et que tu te montres fidèle à notre navire, il y aura toujours une place pour toi à son bord quand j'en aurai pris le commandement. Je t'en fais la promesse. »
« Je doute de vous demander un jour de la tenir. Ce n'est pas que je n'aime pas ce navire, mais je n'arrive pas à imaginer que... »
« À qui tu parles, morveux ?»
intervint Torg d'un ton mordant. Il traversa le pont de sa démarche pesante, tandis qu'Althea se fondait à nouveau dans les ombres en retenant son souffle.
Yéma ne mentirait pas à Torg. Elle savait déjà cela de lui, et pas plus qu'elle ne pourrait rester les bras ballants pendant que l'enfant se ferait rosser à cause d'elle, elle ne pouvait pas courir le risque de se faire prendre par Torg et amener devant Kyle.
« C'est mon heure seule en compagnie de Yéma, il me semble, » fit Vivacia d'un ton cassant.
« À qui croyez-vous donc qu'il pourrait parler ?»«
Y a quelqu'un sur le quai ?»
demanda Torg avec insistance. Sa tête hirsute apparut au-dessus du bastingage, mais l'ombre profonde et la courbe de la coque de Vivacia cachaient Althea. Elle n'osait plus respirer.
« Pourquoi n'allez-vous pas y traîner vos grosses fesses pour vérifier vous-même ? »
répondit Vivacia acerbe. Althea entendit clairement le hoquet de stupéfaction qu'émit Yéma.
Pour sa part, c'est tout juste si elle n'éclata pas de rire. On aurait cru entendre Clément le mousse du bord dans une de ses humeurs les plus effrontées.
« Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais peut-être bien aller vérifier, en effet. »«
Faites attention où vous mettez les pieds dans le noir, » l'avertit Vivacia d'un ton mielleux. « Ce serait trop triste si vous tombiez par-dessus bord et vous noyiez juste au ras des quais. » Et le doux balancement de la vive nef s'accrut légèrement. Alors Althea vit soudain les moqueries gamines du navire à l'encontre de Torgue sous un aspect plus sinistre qui fit se dresser les poils sur sa nuque.
« Navire du démon !» s'exclama Torgue. « Tu me fais pas peur ! Je descends voir qui est là !»
Althea entendit le choc de ses pas sur le pont, mais ne parvint pas à déterminer s'il se dirigeait vers la passerelle ou s'il s'éloignait simplement de la figure de proue.
« Sauve-toi vite !» lui murmura Vivacia. « Je m'en vais. Bonne chance. Mon cœur t'accompagne. »
La jeune fille avait prononcé ces mots dans un souffle à peine audible, mais elle savait que le navire l'entendait tant que ses mains touchaient sa coque. Elle s'éclipsa en s'efforçant d'emprunter les ombres les plus profondes du quai.
« Que ça les protège, et surtout d'eux-mêmes, »
murmura-t-elle. Et cette fois, elle sut qu'elle avait vraiment prié. Ronica Vestrit était seule dans la cuisine. Dehors, la nuit était tombée. Les insectes de l'été chantaient et les étoiles scintillaient entre les branches des arbres. Le gong du bord du champ n'allait pas tarder à retentir. Elle avait l'estomac serré à l'idée du rendez-vous qui l'attendait. Elle avait donné congé aux domestiques pour la nuit et avait dû dire clairement à Rack qu'elle souhaitait rester seule. L'esclave manifestait à Ronica une telle gratitude ces derniers temps qu'il était difficile devant ses yeux de chien battu de la forcer à s'éloigner. Sur les ordres de Kefria, elle apprenait à Malta à danser, à tenir un éventail et même à bavarder avec les hommes. Ronica était consternée de voir confier à une relative inconnue l'apprentissage de sa petite fille dans ces domaines, mais elle savait aussi que Kefria et Malta n'étaient pas dans les meilleurs termes. Elle ne connaissait pas tous les détails de leurs différends et espérait avec ferveur ne jamais les apprendre. Elle avait assez de problèmes de son côté, de vrais, de graves problèmes, sans avoir en plus à intervenir dans les chamailleries entre sa fille et sa petite fille. Au moins, l'éducation mondaine de Malta tenait Rack occupé, ce qui déchargeait Ronica de sa présence la plupart du temps. À deux reprises dernièrement, Davad avait laissé entendre qu'il aimerait récupérer l'esclave. À chaque fois, Kefria l'avait remercié avec tant de profusion de l'aide de Rack en s'exclamant qu'elle ignorait comment elle ferait sans elle, que l'homme s'était retrouvé dans l'impossibilité de demander simplement et avec élégance qu'on la lui rende. Ronica s'interrogeait. Combien de temps cette tactique resterait-elle efficace? Et que ferait-elle quand elle ne suffirait plus? Achèterait-elle la jeune femme? Deviendrait-elle propriétaire d'esclaves elle aussi? Cette idée lui donnait la nausée. Mais le problème était encore aggravé par le fait que la malheureuse s'était excessivement attachée à elle. Dès qu'elle avait un instant de libre, Rack venait rôder non loin de Ronica à l'affût de la moindre occasion de lui rendre service. Ronica priait le ciel que la jeune femme trouve enfin une existence à part entière. Une vie qui remplace celle dont l'asservissement l'avait dépouillée, se demandait-elle amèrement. Au loin, un gong sonna, doux comme un carillon. Elle se leva craintivement, fit le tour de la cuisine, puis revint auprès de la table. Elle l'avait dressée et arrangée elle-même, avec deux grandes chandelles blanches de la cire la plus pure en l'honneur de son hôte. Deux couverts de la meilleure porcelaine et de l'argent le plus fin étaient disposés sur une nappe de dentelle couleur crème. Sur des plateaux, des tartes délicates côtoyaient des assiettes d'huîtres légèrement fumées et de salades fraîches assaisonnées de sauce aigre. Une bouteille de vin vieux complétait l'ensemble. La qualité du repas avait pour but d'exprimer le respect de Ronica pour son hôte, tandis que le décor de la cuisine et le secret qui entourait le rendez-vous devaient rappeler aux deux convives les anciens accords de protection et de défense mutuelle qui les liaient. Tendu, Ronica revérifia la disposition des cuillères d'argent. C'était stupide. Elle le savait. Ce n'était pas la première fois qu'elle recevait un délégué des marchands du désert des pluies. Il en était venu un deux fois par an pendant tout le temps de son mariage avec Éphron. Mais c'était la première fois qu'elle organisait la réception depuis la mort de son époux. Et la première fois aussi qu'elle n'avait pas réussi à réunir toute la somme due. Il manquait deux mesures d'or dans la petite mais pesante cassette. Deux mesures. Ronica avait l'intention de l'avouer dès l'abord, avant que son hôte commence à poser des questions gênantes, puis de proposer une augmentation des intérêts sur le paiement suivant. Que pouvait-elle faire d'autre en définitive? Et le délégué, donc? Un versement partiel valait mieux que rien, et les gens du désert des pluies avaient besoin de son or bien davantage que tout ce qu'elle pouvait leur offrir en remplacement. Du moins, l'espérait-elle. Bien qu'elle s'y fût attendue, le coup léger à la porte la fit sursauter. « Bienvenue !» fit-elle sans faire un mouvement pour aller ouvrir. Vivement, elle souffla les bougies du chandelier qui éclairait la pièce, sauf une qu'elle n'éteignit qu'après s'en être servie pour allumer les deux grandes chandelles de la table, sur chacune desquelles elle enfila un fourreau décoratif en cuivre martelé percé de forme ornementale. La pièce était désormais éclairée par des taches de lumière en forme de feuilles. Ronica eut un hochement de tête satisfait, puis alla ouvrir la porte.
« Je vous souhaite la bienvenue chez moi. Entrez, et que cette maison soit aussi la vôtre. »
La phrase était une vieille formule de politesse, mais Ronica la prononça avec une sincérité non feinte.
« Merci, »
répondit l'envoyé du désert des pluies. Elle pénétra dans la cuisine, vérifia d'un coup d'œil l'absence de Thiers et hocha la tête d'un air approbateur en voyant les lumières tamisées. Puis elle ôta ses gants de cuir souple, les tendit à Ronica et repoussa sur sa nuque la capuche qui dissimulait ses traits. Ronica ne broncha pas et rendit son regard à la visiteuse sans changer d'expression.
« Je vous ai préparé une collation pour vous remettre de votre long voyage. Voulez-vous partager ma table ?»«
Très volontiers, » répondit son hôte. Les deux femmes se firent la révérence.
« Moi, Ronica Vestrit, de la famille Vestrit des marchands de Terrilleville, je vous reçois à ma table et dans ma maison. Je n'ai pas oublié les serments anciens qui lient Terrilleville au désir des pluies, ni notre accord particulier concernant la vive nef Vivacia, produit de nos deux familles.
Moi, Kaolun Festré de la famille Festré des marchands du désert des pluies, j'accepte votre hospitalité, dans votre maison et à votre table. Je n'ai pas oublié les serments anciens qui lient le désert des pluies à Terrilleville, ni notre accord particulier concernant la vive nef Vivacia, produit de nos deux familles. »
Elles se redressèrent, et Kaolun poussa un soupir, feignant d'être soulagé d'en avoir fini avec les formalités. Ronica, pour sa part, se réjouissait secrètement que la tradition eût été maintenue. Sans ce cérémonial, elle n'aurait jamais reconnu Kaolun.
« Vous avez préparé une table ravissante, Ronica. »
« Mais il est vrai qu'il en a toujours été ainsi au cours des années passées. »«
Merci, Kaolun. »
Elle hésita, puis se jeta à l'eau. Ne pas poser la question eût été faire preuve d'une discrétion mal placée.
« Je pensais recevoir Néline cette année. »«
Ma fille n'est plus, »
répondit Kaolun à mi-voix.
« Je suis navré de l'apprendre. »
La sympathie de Ronica n'était pas feinte.
« La vie dans le désert des pluies est dure pour les femmes. Elle ne l'est d'ailleurs pas moins pour les hommes.
Survivre à sa propre fille, quelle douleur !»«
En effet. Cependant, Néline nous a donné 3 enfants avant de s'en aller. Pour cela, son souvenir perdurera et sera longtemps honoré. »
Ronica hocha lentement la tête.
Néline était fille unique. La plupart des femmes du désert des pluies s'estimaient heureuses
si elle donnait naissance à un enfant vivant. En avoir eu trois assurait en effet à Néline de ne pas tomber dans l'oubli.
« J'avais sorti le vin pour elle, » dit Ronica. « Vous, si j'ai bonne mémoire, préférez la tisane. Je vais mettre la bouilloire sur le feu et garder le vin pour que vous l'emportiez en repartant.
C'est très aimable à vous.
Non, pas du tout.
Quand vous le boirez, demandez à ceux qui le partageront de se rappeler Néline et son amour du bon vin. »
Kaoulun baissa brusquement la tête, faisant danser les excroissances qui pendaient de son visage, mais Ronica ne vit que les larmes qui scintillaient soudain dans ses yeux violets. La femme poussa un long soupir.
Pour beaucoup, Ronica, les relations s'arrêtent aux formules de politesse. L'accueil est contraint, l'hospitalité forcée. Mais vous, depuis que vous êtes devenue une vestrite et que vous assumez les devoirs de la visite, vous nous donnez le sentiment d'être vraiment les bienvenus. Comment puis-je vous en remercier ?
Une autre que Ronica aurait pu être tentée de saisir l'occasion pour apprendre à Kaoulun qu'il manquait deux mesures d'or au versement. Une autre que Ronica aurait pu ne pas croire au caractère sacré des promesses et des pactes anciens. Mais pas elle.
« Il est inutile de me remercier, » dit-elle. « Je ne vous donne que ce qui vous est dû. »
Puis, comme sa réponse pouvait paraître froide, elle ajouta, « Mais, avec ou sans cérémonial, avec ou sans accord entre nos familles, je suis persuadée que nous aurions pu être amis, vous et moi. »
« Moi aussi. »
« Eh bien, je vais mettre l'eau à chauffer dans ce cas. »
Ronica se leva et se sentit aussitôt plus à l'aise en accomplissant cette petite tâche simple et familière. Tout en remplissant la bouilloire et en soufflant sur les braises de l'âtre, elle reprit.
« Ne m'attendez pas. Dites-moi ce que vous pensez des huîtres fumées. Je les ai achetées chez Sleck, comme toujours, mais il a confié le fumage à son fils cette année. Il s'est montré très critique à l'égard du travail de son garçon, mais personnellement, je trouve ces huîtres meilleures que d'habitude. »
Kaoulun en goûta une et tomba d'accord avec son hôtesse. Ronica prépara la tisane, apporta la bouilloire sur la table et sortit deux tasses. Puis, elle se rassit et les deux femmes dînèrent en parlant de généralités, de sujets simples comme leur jardin et le temps qu'il faisait, de sujets plus douloureux et intimes comme la mort d'Ephron et celle de Néline, et encore de sujets qui auguraient d'un avenir sombre pour tout le monde, comme les débauches du gouverneur et le trafic d'esclaves qui allait se développant, à cause peut-être de la taxe par tête qu'il avait imposée sur la vente des asservis. Elles évoquèrent longuement et avec tendresse leur famille, et discutèrent gravement de la vivacia et de son éveil, comme elles eussent parlé d'une petite fille commune. Elles échangèrent leurs sentiments sur l'afflux de nouveaux habitants à Terrilville, sur les terrains qu'ils s'appropriaient et sur leurs efforts pour obtenir des sièges au conseil, et elles convinrent que ce dernier point recelait une menace non seulement pour les marchands de Terrilville, mais aussi pour l'ancien pacte entre Terrilville et le désert des pluies qui garantissait la sécurité des deux parties. Ce sujet n'était pas souvent abordé. Toujours présent et inévitable comme respirer ou mourir, le pacte n'était pas matière à bavardage. De même, Kaoulun ne releva pas les nouvelles rides ni les cheveux blancs de Ronica, marque de son chagrin, pas plus que la chair affaissée de ses joues ni la peau fripée de son cou, marque des années. De son côté, Ronica évitait de regarder trop intensément les excroissances écailleuses qui menaçaient de boucher la vue de Kaoulun et la peau grumeleuse visible au niveau de la raie de son épaisse chevelure bronze. La lumière assourdie des chandelles pouvait obscurcir galamment ses cicatrices, mais non les faire disparaître. À l'instar du pacte, elles étaient les stigmates visibles que les habitants du désert des pluies portaient simplement à cause de ce qu'ils étaient. Les deux femmes partagèrent la tisane, puis le repas savoureux. Les lourds couverts d'argent cliquetaient contre la fine porcelaine, tandis qu'au dehors la brise nocturne de l'été faisait teinter les carillons éoliens de Ronica en un doux contrepoint à la conversation. Le temps du dîner, elles furent comme deux voisines passant une soirée de bon ton, où se mêlaient cuisine raffinée et propos intelligents. Cela aussi faisait partie du pacte. Malgré les lieux et les différences qui séparaient les deux groupes, les marchands de Terrilville et ceux du désert des pluies ne devaient pas oublier qu'ils étaient arrivés ensemble sur les rivages maudits, associés, amis et parents tout à la fois, et que la situation n'avait pas changé. Ce fut donc seulement après la fin du repas, alors que les deux convives partageaient une dernière tasse de tisane tiède et que leur bavardage s'était achevé par un silence naturel et sans contrainte, que le moment vint de parler du but essentiel de la visite de Kaolun. Celle-ci prit son souffle et entonna les formules rituelles de la discussion. Les marchands de Terrilville avaient découvert depuis bien longtemps que c'était là un bon moyen de séparer les affaires du plaisir. Le changement de langage ne niait pas l'amitié des deux femmes, mais signifiait qu'en matière de commerce, d'autres règles s'appliquaient, que chacun devait suivre. C'était une sécurité pour une petite société où les agents des deux parties étaient amis et parents.
La vive nef Vivacia s'est éveillée. Tient-elle toutes ses promesses?
Malgré son récent deuil, Renika sentit un sourire sincère naître sur ses lèvres.
Elle tient toutes ses promesses et c'est librement que nous le déclarons.
Alors nous sommes heureux d'accepter ce qui fut promis pour elle.
Et nous sommes heureux de vous le remettre.
Renika retint sa respiration et regretta soudain de ne pas avoir annoncé plus tôt que le paiement était incomplet. Mais il n'aurait pas été correct ni juste de faire intervenir les questions d'amitié dans cette affaire. C'était maintenant et non plus tôt qu'elle devait évoquer le problème, si dur que ce fut pour elle. Elle chercha les mots pour affronter cette situation inhabituelle.
« Nous déclarons aussi que nous vous devons davantage que nous n'avons pu rassembler. »
Renika se contraignit à rester bien droite sur sa chaise et à regarder l'expression de surprise apparaître dans les yeux lavandes de Kaolun.
« Il nous manque deux pleines mesures. » Nous souhaitons demander que cette somme soit reportée à notre prochaine rencontre, auquel moment je vous assure que nous paierons tout ce que nous devons, plus deux mesures supplémentaires et un quart de mesure à titre d'intérêt.
Un long silence s'ensuivit pendant lequel Kaolun réfléchit. L'une comme l'autre savait que la loi de Terrilville lui laissait une grande liberté quant à ce qu'elle pouvait exiger en réparation du versement insuffisant. Renika était prête à l'entendre demander encore deux mesures de plus, et elle espérait pouvoir faire descendre le prix à une, voire une demi-mesure. Elle aurait déjà bien assez de mal à réunir cette somme. Mais la réponse que murmura Kaolun la laissa glacée.
Or ou sang, la dette doit être payée, dit la femme en employant une formule ancienne.
Renika sentit son cœur se serrer. De qui voulait-elle parler? Aucune des possibilités qui lui vinrent à l'esprit ne lui plut. Faisant un effort sur elle-même, elle se rappela qu'un marché était un marché, mais qu'on pouvait toujours essayer d'en améliorer les termes. Maîtrisant sa voix pour l'empêcher de trembler, elle choisit la réponse la moins probable.
« Je suis veuve de fraîche date, » dit-elle. Et même si j'avais le temps d'achever mon deuil, je ne conviens pas pour tenir le serment. Je suis trop vieille pour porter des enfants sains, Kaolun. Il y a des années que j'ai renoncé à espérer donner un autre fils à Ephron.
« Vous avez des filles ?» observa Kaolun d'un ton circonspect.
« L'une mariée, l'autre disparue, » répondit Renika. Comment pourrais-je vous promettre ce dont je n'ai pas la propriété?
Althea a disparu?
Renika hocha la tête en ressentant la douleur qu'elle connaissait bien.
Ne pas savoir, la plus grande angoisse que toute famille de marins éprouvait envers ses membres. Songez qu'un jour l'un d'eux pouvait disparaître et que nulle à terre ne saurait jamais ce qu'il était advenu de lui.
« Je vais vous poser une question, » reprit Kaolun, « que mon devoir envers ma famille m'impose.
Althea ne se cacherait pas ou ne se serait pas enfuie pour éviter d'avoir à tenir les termes de notre marché ?
Vous deviez poser cette question et je ne m'en offense donc pas.
Ronica avait tout de même du mal à ne pas prendre un ton glacé pour répondre.
Althea est absolument fidèle à Terrilville, et elle mourrait plutôt que de manquer à la parole de sa famille. Où qu'elle se trouve, si elle est toujours en vie, elle est liée par notre serment et elle le sait. Si vous décidez de récupérer votre dette et qu'elle la prenne, elle se présentera pour y répondre.
Je n'en doutais pas, fit Kaoulun avec chaleur. Mais c'est sans pitié qu'elle poursuivit. Vous avez néanmoins une petite fille et des petits-fils, et le serment les lie aussi fermement qu'elle. J'ai moi-même 3 petits-enfants, 2 garçons et une fille, qui seront bientôt en âge de se marier.
Ronica secoua la tête et partit d'un rire forcé.
Les miens ne sont encore que des enfants, bien loin encore d'être prêts à se marier. Le seul qui en aurait à peu près l'âge est en voyage avec son père. Et de plus, il est voué à la prêtrise. Je vous l'ai dit, je ne puis vous promettre ce que je ne possède pas.
Tout à l'heure, vous étiez pourtant prête à me promettre un or que vous ne possédez pas, objecta Kaoulun.
Or ou sang, avec le temps la dette sera payée, Ronica.
Et si nous acceptons de vous laisser le choix du moment, peut-être devriez-vous accepter de nous laisser décider sous quelle espèce se fera le paiement.
Ronica voulut boire une gorge de tisane, mais sa tasse était vide. Elle se leva vivement.
« Désirez-vous que je refasse de la tisane ? » demanda-t-elle.
« Seulement si l'eau bout rapidement, » répondit Kaoulun. « La nuit n'attendra pas la fin de nos marchandages pour s'achever, Ronica. La question doit être réglée, et vite. » Je ne tiens pas à être vu à Terrilville en plein jour. Les rues sont trop pleines d'ignorants indifférents aux anciens serments qui nous lient tous.
Naturellement.
Ronica se rassit précipitamment. Elle était bouleversée. Une pensée lui vint soudain, pleine de rancœur.
C'était Kefria qui aurait dû être à sa place. De plein droit, le sort de la famille était entre ses mains et non plus entre celles de Ronica. Qu'elle se retrouve dans une telle position et on verrait comment elle s'en tirerait.
À cette idée, un frisson glacé parcourut Ronica.
Elle craignait de savoir comment Kefria s'en tirerait.
Elle s'en remettrait à Kyle, qui ne savait absolument rien des enjeux de la partie. Il ignorait quelles étaient les anciennes conventions et même si on les lui apprenait, Ronica doutait fort qu'il y adhère. Non, il n'y verrait qu'un froid échange commercial. Il se conduirait comme ceux qui avaient fini par mépriser les habitants du désert des pluies et n'entretenaient plus de contact avec eux que par esprit de lucre, sans se rendre compte de tout ce que Terrilville leur devait. Kefria abandonnerait à Kai le sort de sa famille et il se comporterait comme un boutiquier achetant des marchandises. Dès qu'elle eut pris conscience de ce risque, Ronica franchit une limite, non sans mal, car elle allait devoir sacrifier son honneur. Mais que valait l'honneur quand il s'agissait de protéger sa famille et de tenir sa parole?
S'il fallait user de stratagèmes et proférer des mensonges, il en serait ainsi. Jamais jusque-là, elle n'avait décidé aussi froidement d'aller à l'encontre de tous ses principes moraux. Mais jamais non plus, elle ne s'était trouvée confrontée à des choix aussi terribles.
L'espace d'un instant, son âme éperdue implora la présence d'Ephron, de l'homme qui s'était toujours tenu à ses côtés, qui avait soutenu ses décisions et qui, par sa confiance dans son jugement, lui avait donné foi en elle-même. Son appui lui manquait cruellement. Elle leva les yeux et les planta dans ceux de Kaoulun.
« Acceptez-vous de me laisser un peu de marge ? » demanda-t-elle avec simplicité.
Elle hésita, puis choisit de placer les enjeux assez haut pour tenter son interlocutrice.
« Le prochain versement est prévu à la mi-hiver, n'est-ce pas ?»
Kaoulun acquiesça.
« Je vous devrai 12 mesures d'or pour le paiement habituel. »
La femme acquiesça de nouveau.
Ronica usait d'une vieille astuce d'Ephron lorsqu'il passait à marché.
On noyait la partie adverse sous une pluie de termes avec lesquels elle ne pouvait qu'être d'accord. Et parfois, on arrivait à la faire convenir d'une clause avant qu'elle ait le temps d'y réfléchir.
Je vous devrai aussi les deux mesures d'or qui me manquent cette fois-ci, plus deux autres mesures en dédommagement du retard de paiement.
Ronica s'efforça de conserver un ton calme et détaché en annonçant cette somme princière. Elle sourit à Kaolun.
Son hôte lui rendit son sourire. Et si le montant n'y est pas, nous nous tiendrons au serment original qui nous lie. En or ou en sang, la dette doit être payée. Vous remettrez une de vos filles ou un de vos petits-enfants à ma famille.
Cette partie-là n'était pas négociable. La grand-mère des Fron s'y était engagée bien des années plus tôt, et nulle famille de marchands n'imaginerait seulement de revenir sur la parole d'un ancêtre.
Ronica hocha raidement la tête, puis répondit avec circonspection en termes qui liaient à leur tour la visiteuse.
« Mais si j'ai à votre disposition les 16 mesures d'or, vous les accepterez en paiement. »
Kaolun tendit sa main nue en signe d'agrément, et les protubérances et les barbillons qui en pendaient évoquèrent à Ronica du caoutchouc quand elle la serra pour sceller leur nouvel accord. Puis, sa visiteuse se leva.
Encore une fois, Ronica Vestrit de la famille de marchands Vestrit, je vous remercie de votre commerce et de votre hospitalité.
Et encore une fois, Kaolun de la famille Festrit du désert des pluies, je suis heureuse de vous avoir accueilli et d'avoir négocié avec vous, de famille à famille, de sang à sang. Jusqu'au revoir, portez-vous bien.
De famille à famille, de sang à sang, puissiez-vous bien vous porter aussi.
Les formules de courtoisie mirent un terme à la fois aux transactions et à la visite. Kaolun remit le manteau d'été qu'elle avait ôté en entrant et rabattit le capuchon jusqu'à ce que ne fût plus visible que la pâle lueur lavande de ses yeux, devant lesquels elle laissa tomber un voile de dentelle. Alors qu'elle enfilait ses amples gants sur ses mains difformes, elle rompit avec la tradition et dit, les yeux baissés,
« Ce ne serait pas un sort aussi terrible que beaucoup le croient, Ronica. Je prendrai grand soin de tout membre de la famille Vestrit qui entrerait dans notre maison, tout comme j'attache la plus grande importance à notre amitié. Je suis née à Terrilville, vous savez, et si je ne suis désormais plus une femme qu'un homme de votre peuple pourrait regarder sans frémir, sachez que je n'ai pas été malheureuse. J'ai eu un époux qui m'a choyée, qui m'a donné une fille, et elle-même a mis au monde 3 enfants en bonne santé. Cette chair, ces difformités... Certaines femmes de Terrilville paient peut-être un prix encore plus élevé pour avoir une peau douce, des yeux et des cheveux d'une couleur normale. Si tout ne va pas comme vous le souhaitez, si l'hiver prochain je dois prendre quelqu'un de votre sang, sachez qu'il aura droit à tout notre amour et toutes nos attentions, autant parce qu'il sera issu de l'honorable lignée Vestrit qu'à cause du sang neuf qu'il apportera à notre communauté.
Merci, Kaolun.
Ronica faillit s'étrangler sur ces mots. Sa visiteuse était sans doute sincère, mais concevait-elle à quel point ses paroles étaient glaçantes?
Peut-être, car ses yeux clignèrent 2 fois sous le capuchon avant qu'elle se tourne vers la porte et prenne la lourde caisse de bois pleine d'or qui l'attendait près du seuil.
Ronica déverrouilla la porte en se gardant de proposer à Kaolun une bougie ou une lanterne. Les gens du désert des pluies n'avaient nul besoin de lumière par une nuit d'été. Dans l'encadrement, Ronica regarda sa visiteuse s'éloigner dans l'obscurité. Un homme de son peuple sortit lourdement des ombres pour la rejoindre, prit la cassette d'or et la coinça sans effort sous son bras, puis tous deux firent un dernier adieu de la main à Ronica. Elle leur rendit leur signe. Elle savait qu'une barque les attendait sur la plage, et plus loin dans le port, un navire éclairé d'une seule lumière. Elle leur souhaita bon vent et bon voyage, et pria ça avec ferveur de ne jamais devoir se tenir ainsi à sa porte en regardant un des siens s'éloigner dans l'obscurité.
Dans le noir, Kefria répéta : « Kyle ? Rassasié, il avait la voix grave et chaude.
Elle se colla contre lui. Par contraste avec la chaleur du corps de son époux, elle sentait sa peau se couvrir d'une délicieuse chair de poule, là où la brise nocturne qui soufflait par la fenêtre passait sur elle. Il sentait bon l'amour et l'homme, et la solide réalité de ses muscles et de sa force formait un rempart contre toutes les terreurs de la nuit. « Pourquoi ? » demanda-t-elle à ça en silence. « Pourquoi tout ne pouvait-il être aussi bon et simple ?» Kyle était rentré ce soir-là pour lui faire ses adieux. Ils avaient dîné ensemble, partagé un bon vin, puis la passion et l'amour les avaient amenés dans leur chambre. Demain, il serait parti pour le temps que lui prendrait son circuit commercial. Pourquoi tout gâcher par une nouvelle discussion sur Malta ? Parce que, se dit-elle avec fermeté, la question devait être réglée. Elle devait avoir son accord avant son départ, et elle refusait d'agir dans son dos sous peine d'effriter la confiance qui les avait toujours unis. Elle prit donc une profonde inspiration et prononça les mots qu'ils étaient tous deux fatigués d'entendre.
« En ce qui concerne Malta, » fit-elle.
Il gémit. « Non, je t'en prie, Kefria, non. Je vais devoir me lever et m'en aller dans quelques heures à peine. Passons ces derniers moments en paix. »
Ce luxe ne nous est pas permis. Malta sait que nous sommes en désaccord à son sujet, et elle va s'en servir à son avantage tout le temps de ton absence.
À chacune de mes interdictions, elle répondra « Mais papa dit que je suis une femme maintenant. Ce sera une torture pour moi. » Avec un soupir d'impatience contenue, Kyle s'écarta de Kefria. Le lit cessa d'être le nid tiède qu'il était et devint inconfortablement froid.
Ainsi je devrais reprendre la parole que je lui ai donnée uniquement pour t'éviter de te chamailler avec elle? Allons, Kefria, que penserait-elle de moi? N'exagères-tu pas la gravité de la situation? Elle veut aller à cette réception dans une jolie robe, voilà tout.
Non.
Kefria dut faire appel à tout son courage pour contredire son époux.
Mais il ignorait de quoi il parlait, se dit-elle, éperdue. Il ne comprenait pas, et elle-même avait trop attendu. Elle n'avait pas le temps de tout lui expliquer cette nuit. Elle devait l'obliger à céder sur ce point. Il ne s'agit pas seulement de danser avec un homme dans une jolie robe. Ça va beaucoup plus loin. Elle prend déjà des leçons de danse avec Rack, et je veux pouvoir lui dire qu'elle doit s'en contenter pour le moment, qu'elle doit passer au moins une année à apprendre à devenir une femme de la société de Terrilville avant de se présenter comme telle. Et je veux pouvoir lui dire que nous sommes d'accord là-dessus, toi et moi, que tu as réfléchi et que tu préfères ne pas la laisser sortir.
« Mais ce n'est pas le cas, » répondit Kyle avec entêtement.
Il était à présent allongé sur le dos, le regard au plafond, les mains derrière la tête.
« S'il était debout, » songea Kefria, « il se tiendrait les bras croisés. « Je crois que tu fais une montagne d'une taupinière. Et puis, je ne dis pas ça pour te froisser, mais parce que je le remarque de plus en plus. Je crois que tu refuses de lâcher si peu que ce soit la bride à Malta, que tu souhaites la garder dans tes jupes comme une petite fille. Je sens presque de la jalousie chez toi, ma chérie. » Du fait qu'elle cherche mon attention aussi bien que celle des jeunes gens. J'ai déjà été témoin de ce phénomène. Aucune mère n'a envie de se faire éclipser par sa fille. Une adolescente est pour une femme mûre un constant rappel qu'elle n'est plus dans sa prime jeunesse. Mais je trouve ça indigne de toi, Kefria. Laisse ta fille grandir, qu'elle devienne ton ornement et le témoignage de ton mérite. Tu ne peux pas l'obliger à porter des jupes courtes et des tresses toute sa vie.
Peut-être se méprit-il sur le silence furieux et humilié de son épouse, car il se tourna légèrement vers elle et poursuivit
« Nous devrions remercier le ciel qu'elle ressemble si peu à Yémin. Voilà un garçon qui a l'air d'un enfant, qui s'exprime comme un enfant, mais qui en outre n'a qu'une envie, rester un enfant. L'autre jour encore, à bord du navire, je l'ai trouvé en train de travailler torse nu en plein soleil. Il avait le dos rouge comme un homard et il boudait comme un gamin de 5 ans. Tout ça parce que certains des hommes, par plaisanterie, étaient allés accrocher sa chemise en haut du gréement et qu'il avait peur de monter la récupérer. Je l'ai convoqué dans mes quartiers pour lui expliquer en privé que, s'il n'allait pas la chercher, il passerait pour un poltron aux yeux de l'équipage. Alors, droit comme un i,
avec son air de perle à vertu. Il a rétorqué que ce n'était pas la peur qui l'empêchait d'aller décrocher sa chemise, mais la dignité. Puis il a continué par un discours moralisateur sur le fait qu'il ne s'agissait chez lui ni de peur ni de lâcheté, mais du simple refus de risquer sa vie pour l'amusement des matelots. Je lui ai répondu qu'il ne courait guère de danger s'il appliquait ce qu'on lui avait appris. Mais j'ai eu de nouveau droit à son boniment. Personne ne doit exposer la vie d'autrui, si peu que ce soit, par simple divertissement, etc. J'ai fini par perdre patience. J'ai appelé Torg et je lui ai ordonné de le faire grimper en haut du mât pour qu'il récupère sa chemise. Je crains qu'il n'ait perdu une grande partie du respect de l'équipage à cette occasion.
Pourquoi laisses-tu tes hommes faire des plaisanteries de gamins alors qu'ils devraient être à leur travail ?
Demanda Kefria.
Elle sentait son cœur se serrer pour Yéma, tout en regrettant qu'il n'ait pas eu la simplicité d'aller chercher tout seul sa chemise.
S'il avait relevé le défi, l'équipage l'aurait considéré comme l'un des siens, mais désormais il passerait pour l'intrus qu'on peut tourmenter à merci. Elle le savait instinctivement et s'étonnait que son fils ne l'eût pas compris.
« Tu as pourri ce gosse en l'envoyant chez les prêtres !»
Kyle avait pris un ton presque satisfait, et Kefria se rendit soudain compte qu'il avait complètement dévié le sujet de la conversation. « Nous ne discutions pas de Yéma, mais de Malta. » Elle entrevit une nouvelle façon d'aborder la question. « Puisque tu affirmes être le seul à pouvoir donner à notre fils une éducation d'homme, peut-être devrais-tu reconnaître que seule une femme est à même de guider Malta sur le chemin de la féminité. »
Malgré la pénombre, elle vit l'expression de surprise qui s'afficha sur le visage de son époux devant la rudesse de son ton. Et elle comprit que son approche n'était pas la meilleure si elle voulait le convaincre de la validité de ses arguments. Mais ce qui était dit, et elle se sentit tout à coup trop en colère pour revenir sur ses paroles, pour cajoler Kyle et l'amener à partager son point de vue.
« Si tu étais une autre, je te concéderais peut-être ce droit. »
répondit-il d'un ton glacé.
Mais je n'ai pas oublié ce que tu étais avant notre mariage, ni le fait que ta mère te retenait dans ses jupes exactement comme tu cherches à restreindre Malta. Rappelle-toi le temps qu'il m'a fallu pour t'éveiller à ta sensualité de femme. Tous les hommes n'ont pas cette patience, et je ne tiens pas à voir Malta, une fois adulte, aussi timide et complexée que toi.
La cruauté de ces mots coupa le souffle à Kefria. La cour circonspecte que lui avait faite Kyle, l'espoir délicieux qui avait peu à peu grandi en elle, puis la certitude de son intérêt pour elle, tout cela faisait partie des souvenirs qu'elle chérissait le plus. Il venait de l'en dépouiller en une phrase, par laquelle les mois d'espérance réservés qu'elle avait vécus s'avéraient avoir été pour lui un fastidieux exercice de patience, l'éveil de ses sens, un devoir éducatif qu'il avait accompli pour lui rendre service. Elle dévisagea l'inconnu qui se trouvait soudain dans son lit. Elle aurait voulu nier qu'il avait prononcé de telles paroles, se persuader qu'elle n'exprimait pas ses véritables sentiments, mais seulement une sorte de rancœur. Elle se sentit soudain devenir de marbre. Rancœur au vrai fond de sa pensée. Le résultat n'était-il pas le même ? Kyle n'était pas l'homme pour lequel elle l'avait toujours pris. Depuis des années, elle était mariée à une illusion. Elle s'était inventé un époux, un homme tendre, affectueux, rieur, qui ne s'absentait des mois durant que par devoir, et elle avait plaqué le visage de Kyle sur cette création. Il n'était pas difficile de négliger ou d'excuser quelques défauts chez lui, voire beaucoup lors de ses brèves haltes chez lui. Kefria avait toujours su alors se convaincre qu'il était fatigué, que le voyage avait été long et dur, qu'ils étaient simplement en train de se réadapter l'un à l'autre. Malgré son comportement depuis la mort de son père, elle avait persisté à le traiter et à réagir à lui comme s'il était l'homme qu'elle avait créé dans sa tête. Mais elle voyait maintenant la vérité. Kyle n'avait jamais été le personnage romantique qu'elle avait imaginé. Ce n'était qu'un homme comme les autres. Non. Plus borné que la plupart. Bornée au point de la croire obligée de lui obéir, même quand elle avait raison et lui tort, même quand il n'était pas là pour se dresser contre elle. Elle eut l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois et de voir le soleil levant. Comment avait-elle pu être aussi aveugle?
Il sentit peut-être qu'il avait été trop loin, car il se tourna vers elle et tendit la main par-dessus les draps glacés pour lui toucher l'épaule.
« Viens, » dit-il d'un ton apaisant, « ne boude pas. C'est ma dernière nuit à la maison. Fais-moi confiance. Si ce voyage se déroule comme prévu, je pourrai rester plus longtemps à mon retour. Je serai là et je te déchargerai de toutes ces responsabilités. Malta, Selden, le navire, les propriétés. Je mettrai de l'ordre dans tout ça, et je m'en occuperai comme on aurait toujours dû s'en occuper. Toi, tu as toujours été timide, réservé. Ce n'est pas un reproche, tu n'y peux rien. Je tiens seulement à ce que tu le saches. J'ai bien conscience des efforts que tu as faits pour affronter la situation malgré tes défauts. Si quelqu'un est coupable, c'est moi, de t'avoir laissé la charge de ces soucis pendant des années. »
Paralysée, elle le laissa l'attirer et la serrer contre lui pour dormir. Son corps tiède et accueillant n'était plus qu'une masse lourde et encombrante près d'elle, et les promesses qu'il voulait rassurantes éveillaient des échos menaçants dans son esprit. Dans la chambre ténébreuse, Ronica Vestrit ouvrit les yeux. Elle n'avait pas fermé sa fenêtre et la brise nocturne agitait doucement les rideaux diaphanes.
« Je dors comme les vieux maintenant, par à coup, » se dit-elle. « Ce n'est pas dormir, ce n'est pas être éveillé et ce n'est pas du repos. »
Elle laissa retomber ses paupières. Peut-être était-ce dû aux longs mois passés au chevet d'Ephron, où elle n'osait pas s'assoupir trop profondément, où elle retrouvait toute sa vigilance au moindre de ses mouvements. Peut-être, à mesure que s'écouleraient de nouveaux mois, vides et solitaires, cela, perdrait-elle cette habitude et réapprendrait-elle à bien dormir? Mais elle en doutait.
« Maman ?»
Un murmure plus léger que le soupir d'un spectre.
« Oui, mon chéri, maman est là ?» répondit Ronica d'une voix aussi basse sans ouvrir les yeux.
Elle connaissait ses voix. Elle les entendait depuis des années. Ses petits garçons venaient parfois l'appeler dans l'obscurité. Ses illusions ravivaient de vieilles douleurs, mais elle refusait d'ouvrir les yeux pour les chasser. On se raccroche aux souvenirs qu'on a, même s'ils ont des arêtes tranchantes.
« Maman, j'ai besoin de ton aide. »
Ronica ouvrit lentement les paupières.
« Althea ?»
souffla-t-elle dans le noir. Voyait-elle vraiment une silhouette à la fenêtre, derrière les rideaux gonflés? Ou bien était-ce le fruit de ses rêveries nocturnes?
Une main se tendit pour écarter le rideau, et le buste d'Althea se pencha par-dessus l'appui-fenêtre.
« Oh, ça, merci. Tu vas bien ?»
Ronica se leva précipitamment, mais Althea recula.
« Si tu appelles Kyle, je ne reviendrai plus jamais, » dit-elle d'une voix basse et rauque.
Sa mère s'approcha de la fenêtre.
« Je n'y songeais même pas, » chuchota-t'elle. « Entre, il faut que nous parlions. Tout va mal, rien ne se passe comme nous l'avions prévu. »«
Ça ne me surprend pas, » marmonna la jeune fille d'un ton sombre.
Elle revint près de la fenêtre. Ronica croisa son regard et eut un instant l'impression de contempler une plaie à vif avant qu'Althea détourne les yeux.
« Maman, je suis peut-être folle de te demander ça, mais il le faut. Je dois savoir avant de me lancer. Te rappelles-tu ce qu'a dit Kyle quand... Enfin, la dernière fois que nous étions tous ensemble ?»
Elle avait un ton étrangement pressant. Ronica poussa un long soupir.
« Kyle a dit beaucoup de choses, dont je préférerais oublier la plupart, mais qui semblent s'être gravées dans ma mémoire. De laquelle parles-tu ?»«
Il a juré devant ça que si un capitaine de bonne réputation se portait garant de ma compétence de marin, il me rendrait mon navire. Tu t'en souviens ?»«
Oui, » répondit Ronica. « Mais il ne le pensait sûrement pas. Il est comme ça, quand il est en colère, il fait des déclarations à l'emporte-pièce sans réfléchir. »
« Mais tu te souviens qu'il a dit ça ?» insista Althea.
« Oui, oui, je m'en souviens. Althea,
Il y a des questions beaucoup plus graves dont nous devons discuter. Je t'en prie, entre. Reviens à la maison. Nous avons besoin de... Non. Rien n'est plus important que ce que je viens de te demander, maman. Je ne t'ai jamais entendu mentir sur des sujets sérieux. Un jour viendra où je compterai sur toi pour dire la vérité.
À la stupéfaction de Ronica, Althea jeta ses derniers mots par-dessus son épaule en s'éloignant dans le jardin. Et l'espace d'un instant effrayant, sa mère crut voir la silhouette de son époux jeune homme. Althea portait la même chemise rayée et le même pantalon noir, uniforme des marins à terre, la même longue queue de cheval qui lui descendait dans le dos, et elle avait jusqu'à sa démarche chaloupée.
« Attends !»
lui cria Ronica. Elle s'assit sur l'appui-fenêtre et passa les jambes côté jardin.
« Althea, attends !»
Elle sauta et se reçut douloureusement, pieds nus sur l'allée caillouteuse qui longeait sa chambre. Elle faillit tomber, se rattrapa tant bien que mal, et traversa en courant la pelouse jusqu'à l'épaisse haie de laurier qui la bordait. Althea avait déjà disparu. Ronica tenta de se frayer un chemin à travers la dense barrière feuillue, mais elle parvint à peine à s'y enfoncer et n'y gagna que des égratignures. Les feuilles étaient humides de serin. Elle recula et balaya du regard le visage enténébré. Pas un mouvement, pas un bruit. Sa fille avait de nouveau disparu, si elle était jamais revenue.
Ce fut Cessurea que le nœud choisit pour affronter Molkin. Shriver éprouva de la colère et de la peine en constatant que les autres s'étaient concertés entre eux. Si l'un d'eux nourrissait un doute, pourquoi n'avait-il pas été en parler franchement à Molkin, au lieu de répandre ses idées délétères dans le groupe? À présent, tous divaguaient comme s'ils avaient mangé de la mauvaise viande, et la folie était la plus forte chez Cessurea, qui se cabrait en position de défi face à Molkin, sa crinière orange déjà dressée émettant un nuage toxique.
« Tu nous mènes de travers » trompeta-t-il. « Chaque jour, le plein devient moins profond et plus chaud, et ses selles plus étranges. Tu nous conduis là où le gibier est rare, et tu nous laisses à peine le temps de nous nourrir. Je ne sens la présence d'aucun autre nœud, car aucun ne vient par ici. Tu nous mènes, non à la renaissance, mais à la mort. »
Shriver s'ébroua pour faire jaillir sa collerette en courbant le cou pour en relâcher le poison. Si les autres attaquaient Molkin, elle se faisait la promesse qu'il ne combattrait pas seul. Mais Molkin ne dressa même pas sa crinière. D'un mouvement aussi paresseux que les algues dans la marée, il dessina une lente figure dans le plein. Ses lents déplacements le firent passer au-dessus, puis en dessous de Cessurea, qui dut se tordre le cou pour ne pas le quitter des yeux. Devant tout le nœud rassemblé, Molkin transforma le défi de Cessurea en une danse gracieuse dont il était le meneur. Et c'est avec une sagesse aussi envoûtante que ses propres mouvements qu'il répondit à Cessurea.
« Si tu ne relèves l'odeur d'aucun autre nœud, c'est parce que je traque celle de ceux qui sont passés ici il y a une éternité. Mais si tu ouvrais grand tes ouïes, toi aussi tu percevrais cette odeur ancienne et pas très loin devant nous. Tu crains la tiédeur de ce plein, et pourtant tu faisais partie de ceux qui ont d'abord protesté quand je vous ai conduit de la tiédeur au frais. Tu goûtes l'étrangeté des sels et crois que nous nous sommes trompés de route. Serpent stupide! Si tout restait familier autour de nous, nous serions en train de nager dans hier. Suis-moi et n'aie plus de doute. Car je vous mène non dans votre hier familier, mais vers demain, l'hier de vos ancêtres. Ne doute plus et avale ma vérité.
Cessurea se trouvait si près de Molkin qui exécutait sa danse de vérité, que quand l'ancien hérissa sa crinière et relâcha ses toxines, il ne put que les aspirer. Ses grands yeux verts vacillèrent quand il goûta l'écho de mort et de vérité qui se cache dans le produit.
Son long corps en position de défense trembla, puis s'amollit, et il aurait coulé au fond si Molkin ne s'était pas enroulé autour de lui. Pourtant, alors même que l'ancien le soutenait, le nœud poussa un cri d'angoisse, car au-dessus du plein et pourtant dedans, sous le manque et pourtant dedans, une grande ombre se déplaçait.
Son obscurité passa sur eux sans autre bruit que celui des tourbillons créés par son corps sans nageoire.
Cependant, alors que le nœud s'apprêtait à fuir dans les profondeurs, Molkin, tenant toujours ses suréas dans ses anneaux, se mit à la poursuite de la silhouette.
« Venez !» trompeta-t-il à ses compagnons. « Suivez-moi ! Suivez-moi sans crainte ! Et je vous promets nourriture et renaissance quand l'heure du rassemblement aura sonné pour nous !»
Shriver dut faire appel à toute la fidélité qu'elle ressentait envers Molkin pour surmonter sa peur. De tout le nœud, elle fut la première à se dérouler pour se lancer dans le plein et suivre leur chef. Elle vit la conscience revenir dans un frémissement à ses suréas et remarqua la douceur avec laquelle il se détacha de Molkin.
« J'ai vu »
cria-t-il aux autres serpents qui restaient en arrière, hésitant.
« C'est vrai, Molkin a raison. J'ai vu dans ses souvenirs, et ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu. Venez, venez !»
Au même instant, de la nourriture sortit de la forme sombre, des proies qui ne nageaient pas et ne se débattaient pas mais coulaient lentement, prêtes à se faire saisir et dévorer par tous.
« Nous ne mourrons pas de faim, » assura Molkin avec douceur, « et nous ne serons pas obligés de retarder notre pèlerinage pour pêcher. Rejetez vos doutes et fouillez vos plus anciens souvenirs.
Suivez-moi !»